Bonsoir à tous.
Et merci beaucoup d'être là. Ça me fait très plaisir de vous présenter une soirée sur les papillons de Saint-Martin-la-Porte. Nous allons voir quatre parties. Et puis j'ai pris aussi un petit pense-bête parce que je suis quand même impressionné d'être enregistré par Maurienne TV. Donc, mes premiers mots seront d'abord un remerciement à la commune de Saint-Martin-la-Porte, parce que c'est la première commune de Maurienne qui a accepté que l'on vienne faire le bilan des papillons de jour qui vivent sur sa commune. Ça, c'est dans un cadre beaucoup plus général sur la Maurienne, la vallée de Suse et le Val Sangone en Italie. Et nous avons décidé de présenter dans chacune des communes de Maurienne la richesse de notre patrimoine naturel. Donc merci beaucoup à la commune de Saint-Martin-la-Porte de nous accueillir. Voilà, alors la Dauphinelle est une petite association de nature et culture qui est en Maurienne, plus précisément à Modane, mais on rayonne à partir de notre siège social. Nous sommes là donc pour la connaissance de la nature, mais en même temps aussi pour la transmission de ce que nous découvrons, de ce que nous aimons et de ce que nous avons envie de partager. On se veut être dans une démarche de ce qu'on appelle, j'aime pas trop le terme, mais d'écologie positive. Avec les apports au territoire, on apporte nos connaissances et après c'est le territoire qui décide. Parce que nous ne savons pas tout. Et dans un territoire, il y a de nombreux intervenants qui ont chacun leur particularité. Et c'est la réflexion globale commune qui va donner une solution au problème. Et donc, je terminerai cette introduction donc pour remercier déjà Maurienne TV d'être là, de m'enregistrer, même si ça m'impressionne beaucoup. Du Dauphiné libéré également.
La Maurienne,
excusez-moi, je suis autant. Voilà. Donc là, il faudra peut-être couper au niveau de Maurienne TV. Ça m'arrivera peut-être de vous dire qu'on est à Saint-Michel de Maurienne. Au lieu de Saint-Martin-la-Porte, je vous prie de m'en excuser déjà dès le départ. Et puis, je vais essayer de ne pas trop dire de bêtises. Ou si je dis des bêtises, c'est pour vous faire rigoler. Mais ça sera autre chose. Donc, on démarre. Il va y avoir quatre parties. Quatre parties où je travaille. Après, ce sera à vous. La première partie, ce sont ces photos de papillons que vous voyez sur l'écran, qui sont des papillons qui vivent en Maurienne. Des papillons qui, pour la plupart, sont sur la commune de Saint-Martin-la-Porte. Et c'est simplement pour le plaisir de les voir, de les découvrir. Ce sont des rencontres. Souvent, on n'y fait pas attention, et pourtant, ils sont là. Donc, on a mis le nom commun sur le côté, mais à la limite, laissez-vous guider par leur beauté. Et puis, dans les jeux de mots, voici la lucine. Et c'est vrai que quand on commence à travailler sur les papillons, on hallucine souvent au printemps parce qu'on la prend pour une mélité alors que c'est plutôt un lycène. Vous voyez, donc on se trompe, mais c'est normal. On oublie aussi. Puis on se dit, ah oui, comment il s'appelait celui-là? Tu te rappelles l'année dernière, on l'a vu. Ah oui, ah, mais c'est l'aurore, etc. Nature et culture, ça veut dire aussi qu'on a fait des recherches et qu'on adore cette phrase de Georges Sand, « Les papillons ne sont que des fleurs envolées, un jour de fête, où, et là, la photo est partie, j'ai oublié le reste, mais où la nature était créatrice et nous inventait quelque chose de joli. » Quelques moments simplement à observer, à regarder. Peu importe le nom, peu importe, regardez simplement la vie qui est autour de nous. Nous allons passer ensuite à une seconde partie, puisque nous sommes dans le cadre de la fête de la science, et dont le thème national est les idées reçues. On va en voir quelques-unes à propos des papillons, et vous allez voir que toutes les idées reçues qu'on a, elles ont une origine. Et cette origine, bien souvent, ce sont des visions du passé. Des visions du passé qu'on a pu améliorer, qu'on a pu préciser. Alors, on va quitter cette envolée de papillons de Maurienne. Ah, la chasse aux papillons, avec cette gravure de Réaumur, 18e siècle. Et on va voir. Oh, j'espère que ça ne va pas aller trop vite. Si, ça va trop vite. Excusez-moi, j'ai. Voilà, j'espère que ça va s'arrêter là. On commence par la culture avec effectivement ce très beau poème d'Alphonse de Lamartine, où on a une très belle description des papillons, de comment ils se les représentaient. Naître avec le printemps, mourir avec les roses, sur l'aile du zéphyr, nager dans un ciel pur, balancer sur le sein des fleurs à peine écloses, s'enivrer de parfums, de lumière, d'azur, secouant encore jeune la poudre de ses ailes, s'envoler comme un souffle aux voûtes éternelles. Voilà du papillon le destin enchanté. Le destin enchanté. Il ressemble au désir qui jamais ne se pose, et sans se satisfaire, effleurant toute chose, retourne enfin au ciel chercher la volupté. Nous sommes là en plein romantisme du 19e siècle. C'est très joliment écrit. Et il y a une superbe idée reçue dedans, qui est uniquement par la poudre de ses ailes. Pourquoi ? Parce qu'au XIXe siècle, on n'avait pas des moyens techniques aussi perfectionnés que maintenant. Et cette poudre, quand on les touche, surtout moi avec mes doigts gras, j'en récolte beaucoup sur les doigts, cette poudre, en fait, je vous inviterai ensuite à regarder dans la loupe binoculaire qui est au fond de la salle, près de l'exposition. Vous regarderez, ce sont des écailles. Les écailles des papillons, ce sont des petits panneaux solaires, minuscules. Et ces petits panneaux solaires, en fait, leur permettent de capturer l'énergie et de les faire vivre. C'est pour ça que bien souvent, dès qu'on a un ciel trop voilé, un ciel trop nuageux, ils vont se poser. Les Apollons, parmi les plus lourds d'entre eux, dès qu'il y a des nuages, paf, ils se posent par terre. Les autres, parfois, mettent plus de temps. Et ça fonctionne comme des panneaux solaires, ça leur donne de l'énergie. Mais comme ils ne savent pas le maîtriser, quand il y a trop de soleil, ils vont refermer leurs ailes, se mettre dans la direction des rayons solaires pour ne recevoir l'énergie que sur la bordure de leurs ailes. Ça leur évite d'avoir trop chaud. Voilà, donc cette poudre des ailes, sur les ailes, c'est une vision du 17e, 18e, 19e siècle, on va dire plutôt 18e, 19e. La gravure de Réaumur que je vous ai présentée au départ, elle était en plein 18e siècle. Et on voit quoi ? On voit des gens qui s'amusent à attraper des papillons. Ce sont souvent les aristocrates, ils avaient plus de temps que les gens qui travaillaient. Et effectivement, Vous n'avez pas la possibilité de voir les écailles aussi précisément que celles qu'on vous présente dans notre loupe binoculaire. Donc voici à quoi ça ressemble, de toutes petites écailles de quelques millimètres qui s'en vont très rapidement. Les voilà revenus. Il y en a des milliers qui vont recouvrir les ailes des papillons. Donc effectivement, ils vont en perdre au fur et à mesure. Ils vont avoir moins d'énergie. Mais ça ne les empêchera pas de vivre. Donc quand on retire la poudre des ailes et ils vont mourir, comme on l'entend souvent, c'est une idée reçue. Autre idée reçue qui est très intéressante, je suis désolé pour les blancs parce que j'ai un petit problème d'ordinateur qui est mal réglé par rapport à ce que j'ai à dire. Maintenant, combien de temps vivent les papillons? Et ça, c'est une question très, très, très courante. Avec l'idée en tête souvent qu'ils ne vivent pas longtemps. Eh bien, ça nous vient de ce personnage, Carl von Linné, grand scientifique, puisque toute la base de notre nomenclature scientifique, que ce soit pour les animaux, les plantes ou les champignons, c'est lui qui l'a mis en place. Il a fait un travail d'inventaire absolument fabuleux. Mais c'est une idée reçue, parce que lui, au XVIIIe siècle, eh bien, dans les papillons, il avait mis à peu près tous les insectes qui volaient. Donc on avait des perles, des ascalaves, les papillons tels qu'on les définit maintenant, etc. Et dedans, il y avait un groupe, un ordre qui existe actuellement, qui s'appelle les éphéméroptères, les éphémères, et qui portent bien leur nom en tant qu'adultes, parce qu'ils ne vivent que quelques heures, mais ce n'est pas le cas des papillons. Là aussi, autre idée reçue, en général, mais là, elle nous vient d'un peu plus, de quelques siècles auparavant, on verra pourquoi après. Quand on demande combien de temps vivent les papillons, on pense uniquement aux adultes de papillons. On oublie qu'ils ont été œufs, on oublie qu'ils ont été chenilles, qu'ils ont été chrysalides avant de devenir ce qu'on appelle les papillons. Voilà, donc, première autre idée reçue, combien de temps vivent-ils? Alors là, c'est très variable, ça dépend de chaque espèce. Et il s'avère qu'on a quelqu'un qui s'est vite échappé. Je vais avoir le problème sur toute la... Donc, je vais essayer de... conserver mes images, le temps de parler un petit peu quand même. On a quelqu'un qui est absolument formidable, qui s'appelait Anna Maria Sibylla Merian, qui a vécu donc 17e, début 18e siècle. C'est une fille d'éditeur allemand qui vivait en fait près de la sériciculture, c'est-à-dire l'élevage des papillons qui donne la soie. Et elle a commencé par dessiner. Son oncle l'a aidée, si je me souviens bien, à améliorer ses dessins. Et puis elle a observé, énormément observé. Dans sa vie, elle a eu la chance de partir 2 années dans ce qu'on appelle le Suriname maintenant, qui était la Guyane hollandaise. Et là-bas, elle a dessiné pendant 2 ans. Elle est revenue parce qu'elle a été malade, sans ça, elle serait restée plus longtemps. Et le dessin que vous voyez après la photo du papillon qu'on appelle la petite tortue à côté, eh bien, ce sont des dessins qu'elle a faits là-bas, des peintures qu'elle a réalisées là-bas. Et elle a montré l'adulte de papillon avec sa plante où vit la chenille. On a l'adulte de papillon, la chenille, On doit avoir un œuf quelque part et une chrysalide qui se trouve ici. Donc elle a représenté toute la vie de chaque espèce qu'elle a rencontrée. Et alors là, je fais de mémoire, mais je crois qu'une dizaine d'années après la publication de ces peintures-là, dans un ouvrage de vulgarisation, eh bien, des espèces ont été décrites par des scientifiques tellement ces représentations étaient fiables et précises. Malheureusement, elle avait deux handicaps fondamentaux. La première, c'est qu'elle était une femme. Et là, c'était rédhibitoire à cette époque-là. La seconde, et vous allez voir, c'est pas mieux, c'est qu'elle écrivait en langue courante. Elle écrivait en allemand, elle écrivait en hollandais. Ses écrits ont été traduits en français. Un scientifique ne pouvait écrire à l'époque qu'en latin. Écrire en langue vulgaire, c'était totalement inacceptable. Pourtant, c'est elle qui a amené cette idée qu'on a tout un cycle de vie. Et donc, quand on demande mais combien de temps vivent les papillons et qu'on pense uniquement à l'adulte et on oublie qu'il y a toute une vie. Et donc, ça, c'est une idée reçue qui nous vient du XVIIe siècle, hein, où on estimait que la chenille et l'adulte de papillon étaient deux espèces différentes. Cela vous montre qu'en fait, nos idées reçues, il faut les accepter. Et puis, c'est simplement des références historiques qu'il faut conserver pour aller plus loin. Je vais essayer d'aller plus loin au niveau de la projection, sans être obligé de courir après mes diapos. Voici le cycle de vie de l'œuf sur une chenille. Mais attention, qu'est-ce qu'une chenille? Vous en avez apparemment deux représentations. Eh bien, celle... Ah oui, il faut que je cours. J'ai encore des progrès à faire en termes de diaporama. Donc, celle qui se trouve à droite n'est pas une chenille, même si elle lui ressemble. Alors, qu'est-ce qu'une chenille? Donc, c'est un insecte. Donc, on va lui trouver trois paires de pattes qui se trouvent à l'avant de l'animal. C'est un insecte, il a trois paires de pattes. Il a une tête, un thorax, un abdomen. Et comme chez les chenilles, les abdomens sont assez longs, il y a des excroissances abdominales qui se sont développées. Pour éviter que l'abdomen traîne par terre, c'est pas très génial de traîner par terre. Donc, on a une, deux, trois, quatre, cinq paires de fausses pattes qui sont des prolongements abdominaux pour laisser passer l'air entre le support et l'animal. Or là, on a bien une, deux, trois paires de pattes. On a bien une tête, un thorax, un abdomen. Mais si on se met à compter les paires de fausses pattes, on va en trouver sept. Et là, ce n'est plus un papillon. C'est un petit hyménoptère, le groupe des abeilles, des guêpes, des fourmis. Et je dois reconnaître que quand j'ai pris la photo, je me suis fait avoir. J'ai pensé avoir une chenille en photo. Et quand je l'ai regardée, ensuite, je me suis rendu compte que je m'étais trompé. Ça va être un élément très important. Je vous expliquerai ensuite pourquoi. De la chenille... Elle va aller se transformer, un moment absolument, je dirais, merveilleux. On passe d'un animal longiforme, qui n'a pas d'ailes, qui est plutôt mou, et qui va se transformer en une quinzaine de jours en un adulte avec des ailes, et qui va quasiment plus ressembler à la chenille qu'il était auparavant, et avec des couleurs absolument magnifiques. Donc on a ce cycle, et ce cycle de vie, c'est important de l'avoir en tête maintenant, parce que à cette question, quand on me demande combien de temps vit un papillon, j'explique d'abord tout ça, et puis après je vais dire, chez les papillons de jour dont on parle là pour l'instant, on a des cas très différents. On a par exemple, allez on va prendre l'Apollon qui est le symbole de la montagne, lui en général, en tant qu'adulte, il va vivre une semaine à 15 jours. Certes, vous allez me dire que ce n'est pas beaucoup, mais par rapport à un éphémère où on parle en heures, c'est déjà quand même assez long. Par contre, il faut savoir que si on part de l'œuf jusqu'à sa vie d'adulte, ça fait un peu plus d'un an. Et là, il y a encore bien, bien des choses à dire, mais peut-être que je vous en parlerai ensuite dans notre discussion qu'on aura après. La longévité la plus grande chez les papillons de jour, chez nous, donc en Europe occidentale, c'est le citron. Le citron, ce très beau papillon d'un très beau jaune qu'on voit, le premier papillon jaune qu'on voit voler au tout début du printemps. Pourquoi? Simplement parce qu'il passe l'hiver sous forme adulte. Il va aller se cacher en dessous de rochers, derrière une écorce d'arbre, et dès qu'il va y avoir un peu de soleil, eh bien, il va sortir. Il va commencer par se positionner sur le côté, parce que lui, il prend le soleil sur le côté. Il n'étale pas ses ailes, il les prend juste sur le côté. Et on va le voir voler. Et il y a deux choses qui sont fondamentales pour l'entomologiste que je suis, même pour d'autres, c'est qu'on n'est pas très habitué en tout début d'année à essayer d'attraper les papillons. C'est un sport relativement difficile. Et puis, il vole aussi assez rapidement, ce qui fait que moi, je l'ai toujours appelé le citron pressé. Il y en a d'autres. Hein. Autre exemple, pour donner une idée de cycle de vie particulière, on a un papillon qui a un très beau nom aussi. Il s'appelle le chamoisé des glaciers. Chamoisé parce qu'il a une très belle couleur variable du chamois, et des glaciers parce qu'il vit en haute altitude. Et lui, si sa vie dure 15 jours, 3 semaines en été, tout dépend du temps qu'il y a, en tant qu'adulte, en tant que chenille, il va vivre quasiment 2 années. Il va passer 2 hivers sous forme de chenille à se réfugier pour passer la mauvaise saison, parce qu'il lui faut beaucoup de temps à plus de 2200 mètres d'altitude pour récupérer suffisamment de nourriture, d'énergie pour pouvoir se transformer. Voilà, ça vous donne des... Dernier exemple en termes de rapidité, les pierrides, on a des pierrides qui peuvent se reproduire très rapidement, qui peuvent avoir 2, voire même 3 générations par an. Donc vous voyez, la vie d'un papillon, ça peut être très très variable. Je ne parle que de nos papillons de jour occidentaux. Alors, est-ce que je veux probablement, alors, je vais essayer de ruser avec mes diapos. Non, Albert, tu viens après. Troisième idée reçue qui est très, très importante, et on le dit tous, on a un papillon qui s'appelle la pierrie du jour, que les jardiniers n'aiment pas en général. Et on s'aperçoit que dans cette famille des pierridés, il y a beaucoup de papillons blancs. Ce qui fait qu'on a certains entomologistes ou des gens qui s'intéressent à la nature qui disent finalement, les autres pierrides, elles se sont transformées en blancs pour être comme la pierride du chou. Bon, je ne sais pas si on peut avoir une vision de l'intelligence des papillons à ce point-là, qu'ils réfléchiraient comme des humains. Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont devenus blancs comme la pierrite du chou? Voilà l'explication qu'on a actuellement. La pierrite du chou est un animal qui est toxique pour les jeunes oiseaux. Un jeune oiseau qui va manger une pierrite du chou, il aura été tellement dégoûté, tellement malade, que tous les papillons blancs, il va les oublier. Par contre, ce ne sont pas les autres espèces de pierridés qui se sont dit « Tiens, les pierrides du chou ne seront pas mangées, on va être comme elles. » Non, elles n'ont pas une réflexion humaine comme nous. Par contre, dans les variations d'une génération à l'autre, on a à chaque fois des choses différentes. Pour vous donner une idée, si on prend l'espèce humaine, nos enfants, ils ont un côté très proche de nous. Hein, on reconnaît les familles comme ça, on reconnaît l'enfant par rapport aux parents, mais en même temps, ils sont différents. parce qu'ils ont recueilli la moitié des gènes de la mère et du père. Et petit à petit, on se transforme. On m'a souvent dit que les gens de ma génération étaient un peu plus grands que nos parents. Pourquoi ? Parce que nos parents avaient vécu parfois une, voire même parfois deux guerres, et qu'ils avaient eu des difficultés pour pouvoir grandir et s'épanouir. Et dans l'après-guerre, étant dans une meilleure situation économique et sociale, eh bien, les enfants grandissaient plus. Voilà, c'est pour vous montrer que, en fait, génération après génération, on évolue. Alors, une génération chez les humains, on va dire que c'est 25 à 30 ans. Chez certains papillons, quand on a trois générations par an, vous voyez, ça peut aller extrêmement vite. Et chez les pieridés, il s'avère que la seule lignée qui n'a pas été mangée, qui n'a pas eu un prédateur pour les réduire, c'est cette lignée blanche, simplement parce que les oiseaux qui voyaient des papillons blancs les évitaient. Donc imaginez une pierride de la rave ou une pierride, j'en présente un certain nombre en dessous, pierride de la biscutelle, le marbré de verre, la pierride de la rave, pierride du navet, eh bien ces papillons-là, la seule lignée qui leur permet de ne pas être mangée, beaucoup moins, c'est celle qui va ressembler à celle de la pyrite du chou, au moins sur le dessus des ailes. Voilà, donc, là aussi, le fait de donner une intention à une espèce en disant « ils sont devenus blancs pour ne pas être mangés », c'est du lamarckisme. C'est pour ça que je vous présente Jean-Baptiste de Lamarck, qui est un de nos grands scientifiques français, et qui, lui, a émis cette hypothèse-là du transformisme. On se transforme pour quelque chose. Non, c'est pas comme ça. C'est pas le besoin qui fait l'organe. C'est plutôt une autre façon de voir les choses qui va apparaître au XIXe siècle avec les observations de Darwin et de Wallace. Voilà. Mais ça, dans notre culture, on l'a toujours. Et on continue à le véhiculer tout à fait normalement. Et donc, je terminerai, et celle-là, je sais qu'elle ne bougera pas, je terminerai par cette photo d'Albert Einstein qui a tiré la langue, parce que toutes les idées reçues que je vais vous transmettre maintenant, eh bien, vous verrez qu'il nous faudra peut-être son temps pour dire que je racontais des bêtises. Mais ça, on verra ça plus tard. Bien. Donc, il va falloir que je sois, vu que les diapositives passent beaucoup plus rapidement que prévu. Attendez, je vais voir si je peux quand même. Ah oui, bon, d'accord. Voici donc cette troisième partie sur le travail qu'a fait la Dauphinelle depuis 5 ans. On s'est dit qu'on allait faire un inventaire des papillons de jour. Alors pourquoi les papillons de jour ? C'est simple, c'est 5% de l'ensemble des papillons. Bon, ça représente quand même plus de 200 espèces entre la Maurienne, la Vallée de Suse et le Val de Sangonne. Mais ça ne représente pas les 4000 espèces de papillons qui existent en Savoie. Ça, c'était une première chose. Une population d'espèces relativement réduite. Et puis l'autre, c'est qu'ils volent de jour. Et ça, on aime bien parce que je reconnais que moi, la nuit, je préfère dormir. C'est plus facile pour mon rythme biologique. Donc, et puis en plus, ils volent bien quand il y a du soleil, ce qui est aussi très agréable. Donc, là, ça marche. Ouais. Donc on s'est dit, en étant à Modane, la Dauphinelle, elle se retrouve exactement à mi-distance entre Chambéry et Torino. On a deux vallées montagnardes qui se ressemblent, vallée de Suse et puis la Maurienne, et on aimerait bien savoir ce qui existe là. Donc on a fait un appel. On a fait un appel aux entomologistes. On en a un qui habite bon, pas très loin d'ici, à Saint-Jean-de-Maurienne, qui s'appelle Michel Savoura, qui fait un travail absolument phénoménal sur l'ensemble des papillons de Savoie. C'est pour ça que je peux me permettre de dire qu'il y a 4000 espèces, parce que c'est lui qui me l'a dit. Moi, je n'ai pas été les compter. Et on a démarré il y a 5 ans. Et avec une méthode. Pourquoi est-ce qu'on a voulu faire cet inventaire? Parce qu'on s'est dit, il faut qu'on fasse un point zéro. Il faut qu'on sache exactement ce qu'il y a pour voir comment ça va évoluer dans l'avenir. Dans 20 ans, dans 40 ans, dans 100 ans. Donc, on est dans cette lignée, je dirais, d'entomologistes, parce qu'il y a aussi toute une histoire de l'entomologie qui est passionnante, où on arrive au moment où on fait déjà beaucoup de choses, et on se dit, mais on n'a jamais fait de cartographie de chaque espèce. Donc on s'est dit, nous, bon, on va se prendre une partie de territoire et on va essayer de voir ce qui existe vraiment. Le Muséum d'histoire naturelle de Grenoble avait fait un pré-atlas en 1999 en marquant d'un point dans une commune quand il y avait une espèce qui était présente, mais il l'avait fait sur l'ensemble de la région Rhône-Alpes à l'époque. Donc nous, on s'est dit, on aime bien la montagne, on aime bien les Alpes. On va se prendre un petit carré qui est représenté là par le rectangle blanc. On se prend une tranche d'Alpes. Hein, on passe d'un côté à l'autre et on va essayer de voir ce qu'il y a là-dedans. Ce qui serait formidable, c'est qu'on le fasse sur l'ensemble des Alpes. Mais ça, nous, on n'en est pas capable à notre niveau. Mais on avait envie de voir ce qu'on pouvait faire. Et on a appliqué une méthode qu'on avait mise au point il y a 20-25 ans dans le Sud-Isère et dans le Sud-Isère, hein, dans le Trièves et le Beaumont. Donc, sur deux vallées. En orange, ici, on a la vallée de la Maurienne et en bleu, la vallée de... La vallée de Suse, et puis administrativement, ils ont une petite vallée avec 3 ou 4 communes, qui est le Val Sangone, donc on a inclus dedans. Un peu plus d'une centaine de communes, à savoir que depuis, ça s'est modifié, hein, en Maurienne, on perd des communes simplement parce qu'elles se regroupent, ce qui n'est pas obligatoirement facile pour nous, mais... On s'est dit, on ne va pas travailler uniquement par commune, même si on a une restitution par commune. On va travailler en découpant le territoire par des carrés de 5 km sur 5. Et même si on note précisément ce que l'on voit, on va faire des synthèses dans des carrés de 5 km sur 5. Et puis on va essayer de travailler. Travailler, c'est un terme aussi qui est dans le bon sens. Hein, c'est observer, c'est faire des bilans. Et on va essayer de voir ce qui se passe à peu près tous les 10 jours. C'est la courbe que l'on voit avec des barres bleues qui montrent, en fait, à un moment donné, quand est-ce que l'on prospecte. Donc là, c'est par mois. Nous, on le fait par période de 10 jours. Et puis, pour voir si on n'a pas une habitude d'aller trop en altitude ou pas assez, on fait un graphe en donnant le nombre d'observations. C'est le graphe où on a les barres rouges, ou oranges plutôt, par tranche de 500 mètres. Et ça nous donne à peu près, là, dans ce cadre-là, qui est le résultat de l'année dernière, si je me souviens bien, qui nous donne quelque chose d'assez cohérent. Donc, le résultat, au bout de 4 ans, alors, il faut quand même, je crois que j'en parle après, mais ce point zéro que l'on voit ici, donc on a toute la Maurienne. Je continuerai avec mes doigts. On a là, donc, toute la Maurienne ici et la vallée de Suse en dessous, où on a moins de données, parce que Michel Savouret nous a donné quand même 26 000 données. Un de nos 62 000 données, il y en a 26 000 qui viennent de Michel Savouret. une dizaine de milliers que lui avait récolté de d'autres observateurs et que l'on a complété nous. Et notre association, la Dauphinelle, on a fait également 26 000, principalement en Italie pour compléter ce qui nous manquait. On a essayé de voir là où on avait des manques. Ça nous donne un résultat assez intéressant. Vous remarquerez que notre courbe en bleu, même s'il y a un gros pic pendant l'été, elle est quand même assez régulière. Elle est très fine au début et très fine à la fin, mais c'est normal. Hein. C'est quand on s'échappe de l'hiver qu'on va y rentrer dedans petit à petit. Au niveau altitude, on a rectifié parce qu'on avait beaucoup d'observations sur les 1500-2000 mètres. Donc, il en manquait d'observations à basse altitude. Donc, on a été prospecté plus en basse altitude, en Maurienne et un peu partout en fait en Italie. Voilà, ça nous donne quelque chose d'un peu indigeste, mais je retourne ici pour vous donner quand même quelques points de référence qu'on va revoir ensuite et qui sont intéressants. Dans chacun de ces carrés de 5 km sur 5, je vais essayer de viser Saint-Martin-la-Porte, qui est ici. Voilà, on a des carrés où il y a 116 espèces, 101 espèces, 113 espèces. Dès qu'on atteint les 110 espèces, on a 20% des espèces de toute l'Europe. Ce qui veut dire que dans un carré de 5 km sur 5, où on a plus de, on a environ 110 espèces, on a une espèce sur 5 en Europe qui vit dans un carré de 5 km sur 5. Ça vous donne la richesse qu'on a sur l'ensemble de la zone d'étude. Hein, vous le remarquerez. Alors, effectivement, dès qu'on arrive sur les bords, on a beaucoup moins d'observations parce qu'on est plus en altitude et on a moins de possibilités d'y aller et il y a moins d'espèces. Mais globalement, hein, dès qu'on part d'ici, il y en a un petit peu moins en début de vallée, hein, dans chacune des vallées, mais dès qu'on part, je dirais, là on a Saint-Léger qui est par là, à partir de Saint-Léger, et je dirais jusqu'à Termignon, peut-être même Lens-le-Bourg, on a quand même quasiment partout des carrés qui ont plus de 100 espèces. Ce qui montre une grande richesse sur l'ensemble du territoire. Une grande richesse en espèces. Par contre, on n'a pas pu évaluer la richesse en termes de population, parce que là, c'est un autre niveau. C'est un niveau véritablement scientifique qu'il faut avoir et avoir des moyens que nous n'avons pas en tant qu'association. Alors, vous remarquerez aussi, je fais juste un petit point pour l'Italie, on a moins d'espèces dans chacun des carrés, parce qu'on a beaucoup moins d'observations. Mais globalement, 173 espèces en Maurienne, 190 en Val de Suse. La différence entre ces deux vallées, elle vient du fait qu'on a deux vallées montagnardes, mais il y en a une qui est montagnarde et méditerranéenne. Il faut savoir que dans la vallée de Suse, il y a une réserve naturelle qu'on appelle l'Orido de Chianoco, où il y a des chênes verts. Chênes verts qui sont chez nous profondément méditerranéens. Voilà pourquoi ils ont plus d'espèces. Par contre, nous, on a certaines espèces qu'ils n'ont pas. On en a 8 qu'ils n'ont pas. Et de mémoire, je crois qu'il y en a 30 qu'ils ont, qui n'ont pas passé l'école. Et ça, c'est un scientifique du Muséum de Paris que je tiens à saluer aussi, Pascal Dupont, qui est quelqu'un qui fait un travail absolument formidable sur la France là-dessus, et qui m'a donné, je pense, la solution pourquoi les espèces méditerranéennes ne sont pas passées. C'est que quand on avait des glaciers, on avait un poids énorme sur toutes les Alpes. Donc le continent était, je dirais, un peu comme... j'ai pas vu le nom du dessert. L'île flottante. Vous voyez le dessert, l'île flottante, hein? C'est curieux de parler de cuisine en parlant de papillons, mais une île flottante, c'est quoi? C'est Alors, en termes de cuisine, je vais peut-être me porter, mais on va dire que c'est du blanc d'œuf qui flotte sur une sauce vanille. Si on met beaucoup plus d'huile, elle va s'enfoncer. Les continents, c'est la même chose. C'est la même chose, ça on le sait grâce à, bon, ça, à Alfred Wegener, mais c'est une autre histoire. Je vous la raconterai plus tard. Ce que me disait Pascal Dupont, c'est que quand les glaciers ont fondu et que la vallée est devenue ce qu'elle est maintenant, eh bien les cols du Mont Cenis qui se trouve ici et le col du Mont Genève qui se trouve ici entre la vallée de Suse et le Briançonnais, ils étaient 300 à 400 mètres plus bas qu'ils ne sont actuellement. Et donc ces 300 ou 400 mètres plus bas ont permis à un certain nombre d'espèces méditerranéennes de passer en Maurienne et de passer dans le Briançonnais. Alors elles ne sont pas toutes passées, c'est pour ça qu'il y en a qui sont restées coincées dans la vallée de Suse, donc il faut passer le tunnel pour aller les voir. Mais les espèces, et ça ce sont les scientifiques qui ont travaillé là-dessus, les espèces méditerranéennes qu'on a en Maurienne, génétiquement, sont liées aux populations italiennes de ces papillons-là, et pas du tout aux populations provençales que nous avons en France. Voilà. Donc à un moment donné, elles ont pu passer, elles ont pu migrer, elles ont pu s'installer chez nous, et elles y sont restées bloquées. Voilà le résultat de 5 ans de travail au niveau associatif, 5 ans de plaisir à observer, à compléter les informations des entomologistes qui étaient passés avant nous. Un gros travail aussi de cartographie, de travail sur ordinateur, etc. Et aussi, je tiens à le signaler, tout ce travail, il a été réalisé grâce à tous ces gens. C'est pour ça que nous, de l'association, nous tenons à adresser, à exprimer nos chaleureux remerciements à tous ceux qui contribuent à cette réalisation. Alors, il y en a qui nous ont apporté leur aide financière. Département de la Savoie, dans le cadre du FDAN, l'ancienne communauté de communes de Terramonala, qui s'appelle maintenant Haute-Maurienne-Vanoise, la commune de Saint-Michel-de-Maurienne, la commune de Fourneau, la commune de Modane, la fondation Nature et Découverte, et la fondation Placoplâtre. Voilà, ce sont les gens qui nous ont aidés financièrement. Mais il n'y a pas que ça. On a reçu des coups de main, donc du muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, du Muséum de Grenoble, du Parc National de la Vanoise avec qui on a échangé nos informations. On leur a donné les nôtres, ils nous ont donné les leurs. On a fait la même chose avec le Conservatoire des Espaces Naturels de la Savoie, Michel Savouret, que je tiens à souligner. Et puis aussi, je dirais, tous ceux qui nous ont apporté des dons, hein, des gens. Dans le cadre, alors je ne sais pas, j'ai perdu les termes, c'est pas mon truc, mais on peut avoir des réductions d'impôts en nous aidant. Bon, il y a des gens qui nous ont aidés, et puis il y a des gens qui nous ont donné des coups de main. Il y a des gens qui nous ont aidés en disant tiens, on pourrait faire ça. Et là, je pense à un Italien qui nous a fait, on a passé notre exposition en Italie et qui a fait toute la traduction de ce que je disais pendant tout un week-end. À San Giorgio di Susa. Voilà, pour vous donner un peu. Oui. Et puis la traduction également pour toutes les fiches. Hein, sur l'exposition que vous avez autour, qui est un format réduit d'une exposition plus grande que l'on a fait, qu'on avait fait dans le cadre de l'automne italien de Modane, eh bien, on a eu quelqu'un d'Italie qui nous a traduit tout le texte français. Et ça, c'est un sacré coup de main aussi. Voilà. Donc, on tenait à remercier tous ces gens-là qui nous ont permis de faire, pour moi, la présentation de ce bilan. Mais on ne va pas s'arrêter là. On va passer à la quatrième partie. Alors, comme je n'ai pas envie de courir après mes diapos, je vérifie juste une chose avant de vous la montrer.
ça devrait aller.
Donc, on va achever notre envolée de papillons de Maurienne, puisqu'on a souhaité faire ces restitutions communales sous un nom un peu plus poétique, cette envolée de papillons de Maurienne, par un focus sur la commune de Saint-Martin-la-Porte. Et j'ai remis donc à monsieur le maire adjoint la synthèse de ce que je vous ai présenté pour la commune, avec ce focus sur Saint-Martin-la-Porte. Et nous espérons le faire dans les 61 autres communes de Maurienne. C'est un avis que je lance. Voilà, alors Saint-Martin-la-Porte, on en prend les limites communales. Alors ça, je l'ai fait. Vous connaissez probablement, moi je l'ai fait parce que j'ai quand même un peu le cerf-volant, donc il me faut du temps pour arriver à voir que tout à fait au nord de Saint-Martin-la-Porte, on bascule en parenthèse sur la commune des Belleville, nouvelle commune depuis quelques années. Sur le côté oriental, on a Saint-Michel-de-Maurienne, sur le côté occidental, Saint-Julien-Mont-Denis. Vers le sud, c'est déjà un peu plus compliqué, on a Montrocher-Albanne, mais on a un tout petit bout de Valloire et un petit bout de Saint-Martin-d'Arc qui sont là. On va de 650 mètres d'altitude à 2825 mètres d'altitude, ce qui est quand même énorme, 1400 mètres de dénivelé, ce qui est très important. Et le carroyage que vous voyez là, ces carreaux, ce sont nos carreaux de 5 km, d'un kilomètre de côté. Si on prenait les carreaux de 5 km sur 5 que je vous montrais tout à l'heure, on serait ici au point entre 4 carreaux. Celui-là qui est tout petit, celui-là qui est beaucoup plus vaste, et puis ces deux-là qui représentent les parties plus basses de Saint-Martin-la-Porte. Mais pour la restitution, nous on a plutôt travaillé au kilomètre carré près pour voir ce que cela donnait. Voici la fiche de bilan sur Saint-Martin-la-Porte. Vous remarquerez qu'il y a des carrés où on n'a pas eu de prospection, parce que trop éloigné, parce que manque de temps, parce que on ne peut pas passer partout non plus. Et puis d'autres où on a beaucoup prospecté. Donc le premier chiffre qu'on a en haut, ce 71 par exemple, représente le nombre d'espèces dans ce kilomètre carré-là. 71 espèces. On est sur, attendez que je fasse à peu près le calcul, mais on est sur du 7% des espèces européennes. C'est colossal. Et puis, il y en a d'autres où, parce qu'il n'y a eu qu'une... Alors, le chiffre qui est entre parenthèses en dessous, c'est le nombre d'observations faites. Donc, 71 espèces avec 201 observations, on y a été plutôt régulièrement et assez souvent. 12 observations, 12 espèces, ça veut dire qu'on y était une fois, et puis c'est tout. Parce que c'est haut, parce que... Ouais. Résultat, quand même, 800 données, je arrondis, 800 données sur la commune de Saint-Martin-la-Porte, 113 espèces, sur une période qui va de 1985, juin 85, à fin septembre 2018. Ça représente 66% des espèces qu'il y a en Maurienne, presque 45% des espèces françaises sur une seule commune, et un peu plus de 20% des espèces européennes. Pourquoi une telle richesse? C'est ce que m'a dit le maire au téléphone quand je l'ai eu il y a une dizaine de jours, mais pourquoi un tel résultat? Eh bien, simplement, l'histoire des Alpes, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis, je dirais, une utilisation, une gestion du territoire qui est restée encore relativement proche de ce qui se faisait quand l'humain était totalement inclus dans la nature. Quand je dis cette période où on était totalement inclus dans la nature, c'est-à-dire que quand on mettait un déchet dehors, il se détruisait naturellement. Les plastiques n'existaient pas. Les vidéoprojecteurs, les ordinateurs, les appareils photo, les microphones n'existaient pas, etc. etc. Et surtout, au niveau de la gestion du territoire, eh bien, on a conservé, même si elles se sont modifiées, mais des activités qui étaient proches de celles qui se faisaient auparavant. Il y a quoi, deux semaines de cela, on a rencontré des bergers qui étaient dans les alpages, là-haut, qui ne sont pas là parce qu'ils sont repartis du côté de chez eux, là, vers le Mont Ventoux. Et effectivement, le fait qu'on ait des troupeaux là-haut et qu'ils soient gérés comme ils le sont, permet de garder une végétation suffisante pour que les espèces de papillons puissent se reproduire et puissent rester là. Peut-être que la zone la plus transformée à Saint-Martin-la-Porte, ce qui est assez logique, c'est celle-là, on va la voir ensuite, c'est celle des passages, c'est celle des transitions. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on voulait vous présenter. On a divisé en fait la commune sur des zones qui nous ont semblé importantes. Pourquoi je n'ai pas d'écriture? Elles y sont même très peu visibles, il faudra que je modifie ça. On a cette grande barrière rocheuse du massif des Encombres qu'on a mis ici, qui va avoir certaines particularités. On a les alpages et puis aussi les zones de lande, les zones de plutôt de pierriers. On a des zones boisées au sens très large, ça peut être quand même avoir un petit côté bocager aussi. Mais là, on a la zone, je dirais, principale d'habitation, le chef-lieu, la Villette, la Porte, Mollard-Durand. Mais ici, alors là, je ne sais jamais comment le dire. Pour moi, c'est une zone plutôt sèche. On l'appelle le point ou la roche, tout dépend de quel côté on se situe. Donc, je vous donne les deux noms. Je ne sais plus lequel est en usage à Saint-Martin-la-Porte. Et puis, vous voyez, cette zone de transit ici, il y a tout qui passe. D'abord l'arc. Et puis après, la nationale devenue départementale, et puis l'autoroute, et puis le train, et puis... Voilà, on a cette grande zone de transit qui est ici, qui est effectivement extrêmement transformée. Et puis ce petit gris clair, là, c'est l'autre côté de l'arc, avec les falaises. Et on va avoir des choses différentes sur chacune de ces zones-là. Ce qui peut expliquer aussi la grande richesse des papillons de Saint-Martin-la-Porte. Alors sur la roche, c'est le royaume des moirés. Ces papillons qui ont été repoussés pendant le million d'années des glaciations. À chaque fois que les glaciers avançaient, ils repoussaient toute la vie au loin. Et quand les glaciers se rétrécissaient, c'est la vie qui venait reconquérir le territoire. Pendant l'ère glaciaire, ça a duré, ça s'est fait 4 ou 5 fois. Et à chaque fois, les populations se sont fragmentées. Et en se fragmentant, elles ont commencé à évoluer d'une génération à l'autre. Puis quand elles revenaient dans les vallées, elles se redifférenciaient encore. C'est pour ça qu'on a 22 espèces de moirées en Maurienne. Je n'ai plus le chiffre exact à Saint-Martin-la-Porte. Mais, et qu'on n'en a que 2 dans le Limousin, parce qu'ils n'ont pas eu ce phénomène de vallée, de vallon qu'on a, qui donne cette grande diversité. Donc les roches, c'est le domaine des moirées. Moirées cendrées, moirées défétuques. Vous remarquerez, ce sont tous des papillons avec un fond marron foncé, avec des taches oranges, avec des ocelles noires, parfois pupillées de blanc, ou pas du tout d'ailleurs. Elles peuvent être resserrées, comme dans le moiré lancéolé, elles peuvent être... Enfin bref, c'est pas facile à reconnaître, mais c'est particulièrement intéressant. Et c'est ce qui va donner la richesse un autre valet, montrons à Saint-Martin à la porte. Alors les papillons d'en bas, on a des furtifs, ils sont là, on a très peu d'observation, peut-être parce qu'on n'a pas eu une pression d'observation suffisante. Mais le tier 6, on voit ici de profil, l'hespérite du chien d'en sont de très jolis papillons qui sont présents en bas uniquement. En fond d'écran, on voit les paysages de Saint-Martin-la-Porte et ça explique aussi pourquoi on a tant d'espèces. Regardez ce superbe paysage. On a, si je ne me trompe pas ici, le chef-lieu et on a des haies d'arbres. On a de la prairie qui peut être broutée ou fauchée. On a une variété importante de petits milieux qui font que chaque espèce va trouver ce dont elle a besoin. Ce dont elle a besoin en tant que chenille pour se nourrir, ce dont les adultes de papillons ont besoin aussi pour se nourrir quand ils sont adultes. Voilà, avec quelques espèces. Et j'aime bien ce petit azuré de la faucille, là. Si on regarde par rapport au doigt, il est tout petit. Mais superbe. Les lieux boisés sont aussi des lieux où on a des espèces particulières. Parfois très commune. Hein. Le morio, ce gros papillon, c'est un grand papillon, pourpre velouté, avec des ponctuations bleues sur le bord, et une bordure soit blanche, soit jaune, ce qui fait que les Suisses, qui ont des cantons, l'ont appelé le manteau royal. Est-ce que c'est une envie de leur part? Ça, je ne sais pas. Je laisserai plutôt les historiens, les géographes en parler. Mais c'est un très joli nom parce que ça correspond véritablement à la beauté de ce papillon. Un papillon très curieux. Hein. Et vous êtes dans sur une piste, vous avez des arbres de chaque côté, un peu d'herbe, et puis il est là, posé par terre, vous avancez, il va s'envoler, il va venir vers vous. Et à un mètre de vous, il change de direction et il repart. C'est un papillon très curieux. Il est venu voir ce qu'on représentait. Bon. Et puis, une fois qu'on aura quitté son territoire, il pourra se reposer. Ce que font beaucoup de papillons territoriaux comme ça. Un autre papillon aussi de bordure de bois, c'est le myrtille. Très, très joli papillon, très fréquent. C'est l'une des espèces les plus communes qu'on puisse avoir. Eh bien, il est à Saint-Martin-la-Porte. Là, on est à peu près à mi-hauteur. On a une belle prairie, on a des feuillus tout autour. Eh bien, on va avoir des papillons qui vont vivre là. Le Tristan qui est ici, tout marron avec des ponctuations noires, pupillées de blanc. Lui, il va être sur la bordure en lisière de bois. Le nacré de la ronce lui porte très bien son nom qui est en dessous. Hein, lui, eh ben, il va se nourrir à l'état de chenille des feuilles de ronce, mais, ça ne lui suffit pas. À l'état adulte, il va aller butiner les fleurs. Le Robert le Diable, pourquoi un tel nom? Simplement parce qu'il a les ailes tellement découpées qu'on se demande ce qui lui est arrivé. Lui aussi très territorial. Vous avez le trouvé sur une feuille à mi-hauteur, sur le bord du chemin. Puis un papillon qui est pas facile à voir quand on n'a pas l'habitude, la grande tortue. Alors oui, les entomologistes sont des gens particuliers. Hein, ils vont parler de petites tortues, de grandes tortues. Ce ne sont pas des herpétologues, ce sont des entomologistes. Ils vont pas vous parler de belles dames, la migration des belles dames. Ça, c'est encore toute une autre histoire, etc., etc., etc. L'Apollon, les mégères, enfin bon, vous voyez, il y a tout un langage très particulier aux entomologistes qui s'occupent de papillons. La grande tortue, c'est un très très beau papillon aussi, mais très discret, qui vit sur les saules, sur les peupliers. Puis là, on arrive dans les alpages et les pelouses alpines. Et là, on va trouver des espèces qui ne vivent que là-haut. Le Q puis il y avait la verge d'or, qui est un très beau papillon, qui ressemble à un autre papillon qui est plus bas. Mais lui, pour être sûr de sa détermination, il faut voir les petites taches blanches qui sont sur le dessous de l'aile postérieure, ce qui n'est pas toujours très simple à voir. Et puis, l'azuré de la croisette. Alors non, il n'a strictement rien à voir avec la commune de Nice, même si on est en Savoie, mais non. En fait, on devrait l'appeler l'azuré de la gentiane croisette. Gentiana cruciata, dont on voit une superbe fleur ici, une feuille. Et cette femelle, parce que c'est une femelle de ce papillon, l'azuré de la croisette, elle vient de déposer un œuf sur une fleur. De l'œuf va sortir une petite chenille qui va commencer à se nourrir, soit de la feuille, soit de la fleur. Et puis, dès qu'elle va avoir suffisamment mangé, comme les insectes n'ont pas une peau qui s'étend, eh bien, elle change de peau. Donc, une fois arrivée trop à l'étroit dans la peau, eh bien, à un moment donné, c'est un peu comme un vêtement. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de mettre un vêtement beaucoup trop petit. Si vous forcez, il craque. Eh bien, la muse, c'est ça chez les insectes. Quand ça devient trop petit, ça craque, on sort de là, et on a une nouvelle peau qui se forme. Alors, en général, la nouvelle peau, elle est trop large. Elle est trop large, donc la chenille va se mettre à manger pour remplir cette nouvelle peau jusqu'au moment où elle sera trop juste. Voilà. 5-6 mues permettent aux insectes, en général, de se transformer en adultes. Donc, ce petit œuf-là, sur cette gentiane croisette, eh bien, la chenille, au bout de deux mues, elle va se laisser tomber par terre. Et là, il y a une bonne solution et une mauvaise. On va commencer par la mauvaise. Elle se fait manger par un oiseau. Elle se fait attraper par des fourmis, mais pas les bonnes fourmis. Celles qui vont la prendre, la découper en morceaux et l'emmener dans la fourmilière, ça c'est pas très bon pour elle. Et puis il y a les autres. Il y a une fourmi particulière qui va attraper cette chenille, qui va l'emmener dans la fourmilière. Là, la chenille, elle est super. Elle va commencer à dévorer un peu le couvain des fourmis. Et les fourmis vont accepter parce qu'en fait, la chenille va leur offrir quelque chose qu'elles adorent. Donc elles vont l'accepter. Elles vont perdre un peu de couvain, mais elles récupèrent ce qu'on appelle le miella chez les pucerons, qu'on peut trouver chez cette espèce de papillon. Et donc elle va passer tout l'hiver au chaud, dans une fourmilière, tranquille, à se nourrir. Seul problème, c'est qu'elle va se transformer en chrysalide, et puis après, en adulte de papillon. Et ça, l'adulte de papillon, il faut qu'il se dépêche de sortir, parce que lui, il n'est plus comme le chenille accepté par les fourmis, mais il devient un risque pour la fourmilière, donc un individu à attraper, à découper en morceaux, etc., etc. Donc, il y a des horaires de sortie de ces papillons qui sont préférables. De mémoire, je dirais entre 9 et 11 heures, mais c'est peut-être à vérifier dans la littérature. C'est le meilleur moment pour que le papillon puisse sortir. Il y en a qui arrivent, puisqu'on a une très belle photo voilà, de cette femelle d'azuré de la croisette. Et donc sur les alpages, voilà ce troupeau de moutons qui était là il y a encore cet été. Et on a tout un ensemble d'espèces qui ne vivent que là-haut. Le moiré lancéolé, on a encore du moiré ici. Ce moiré lancéolé, pourquoi ? Parce qu'il a deux taches oranges très allongées avec un petit point noir sur chacune d'elles. C'est très décoratif, c'est bien, bien joli, bien trouvé. Le sablé du Saint-Foin aussi, qui est un très beau petit lichen. Cuivré, écarlate, enfin bon, voici 5-6 espèces. Je m'arrêterai quand même sur le candide, qui est un très très beau papillon, assez difficile à faire en photo. Quand on peut le prendre, c'est qu'il est en train de butiner, donc il nous montre le dessous de ses ailes. Mais pour arriver à voir le dessus de ses ailes, qui est d'un blanc jaunâtre grisé, c'est plutôt difficile. Et là, je reconnais que si la fleur est nette, le papillon est flou, parce qu'il ne laisse pas le temps de se faire en photo. espèce d'altitude qu'on ne trouvera que là-haut. Et il nous reste ces zones steppiques. C'est une zone steppique où on a quelques espèces, comme la graisse ou le mysis, qui ont besoin d'un territoire très sec où vont pousser les stipennées. Ces plantes aussi absolument fabuleuses, mais ça c'est encore une autre histoire. Mais allez, je vous la raconte quand même. Le stipennée a une graine extrêmement dure qui est vrillée tout à fait au bout et qui a un long plumeau. Et quand elle mûrit, le plumeau est vraiment superbe. Ça permet au vent de l'envoyer ailleurs. Et comme la graine est plus lourde que le plumeau, elle va tomber sur un sol. Et si elle tombe sur un sol très sec, c'est très dur de s'enraciner. Et c'est là où le petit pic qui est au bout de la graine, il va se planter dans le sol. Et le plumeau, à ce moment-là, il va changer. Il va se mettre à 90 degrés. Et avec le vent, il va tourner. Et comme en vis dans du bois, eh bien, la graine de stipennée va visser dans la terre, va s'encastrer dans la terre et elle va pouvoir germer. Voilà. Une adaptation des endroits qu'on ne trouvera que sur le point où la roche qui se trouve sur Saint-Martin-la-Porte et juste à côté de Saint-Michel. Je m'approche de la fin avec les espèces communes et ubiquistes parce qu'on les trouve un peu partout. Et voilà, on a la petite tortue ici, qui a quelques différences avec la grande, mais je passerai là-dessus. C'est normal, ça chute des feuilles là, à l'automne. On a une partie des papillons qui se sont envolés sur la porte là-bas. On a aussi un papillon, un très beau papillon qui s'appelle le gazé. Et qui lui, on va le trouver à peu près partout dès qu'il y a des prunelliers. Donc on peut le trouver assez haut en altitude et il est très commun. Quand je dis très commun, il y en a un autre. Non, je ne l'ai pas mis. On le trouvera sur une des fiches de l'expo. C'est le demi-deuil. Pourquoi ? Parce qu'il est, il est blanc et noir. Nous, on l'a appelé le demi-deuil. Les Suisses qui ont préféré l'appeler l'échiquier, ce qui est très joli aussi. C'est un papillon qui est extrêmement présent chez nous et qui a de belles populations. Quand on le voit, il est en nombre, hein, on en voit des dizaines. C'est en allant deux fois en Bretagne qu'on s'est rendu compte qu'il était vraiment bien présent chez nous. C'est l'envol des papillons dans l'automne. Parce que quand on arrivait à en voir deux ou trois dans un endroit, c'est fabuleux. Et ça montre à quel point les populations sont restreintes. Donc, sans savoir comment c'était il y a 40 ans, j'ai envie de dire quand même qu'on a de très belles populations quand même d'un certain nombre d'espèces. Voilà. Des papillons. Alors, celui-là, vous penserez à cette soirée en regardant celui-là au printemps prochain. Le mâle d'aurore est tout blanc avec des taches oranges sur le bout des ailes. Il est absolument superbe. Il se voit très facilement, il est très commun. La femelle sera plus dure à voir parce qu'elle est entièrement blanche. Le fluoré, il y a aussi le souci. Un papillon qui s'appelle le souci alors qu'il est très beau et qui ne pose pas de problème, mais c'est comme ça qu'on l'appelait. Qui sont très présents. On en a encore vu tout à l'heure, en fin d'après-midi. Le fadet commun qui est probablement pour nous le papillon le plus commun de France. Voilà. L'argus frais qu'on va trouver en myriade avec d'autres espèces dès qu'on a un sol un peu humide, avec de l'eau qui ruisselle. On va les trouver là, les lycènes. Et puis, je terminerai par ce point de Hongrie. Là aussi, c'est un nom qui lui a été donné, simplement parce qu'il a une série de jolies petites taches blanches sur le bord de chacune des ailes. Et ça ressemble à des points de broderie. Vous voyez, quand on dit que la Dauphinelle est nature et culture, ça ne date pas de cette association-là, mais de ceux qui lui ont donné ce nom commun. On va terminer par quelques migrateurs. Et il faut savoir que On a fait des observations de migration à Saint-Martin-la-Porte au mois de juin, il y a quelques années. Si vous allez dans les alpages là-haut, vers la fin juin, alors il faut être observateur. Hein. Il faut déjà repérer la pierrite du chou, qui est un gros papillon blanc. Et puis les papillons migrateurs sont des papillons qui ne vont pas s'arrêter. Un papillon territorial, il est posé, il voit ce qui se passe. En général, c'est un mâle qui attend une femelle et il va essayer de lui dire « Regarde, chez moi, c'est plus beau que chez le voisin. » Il y a peut-être les jeunes qui font ça chez nous aussi, hein, chez les humains. Mais... un migrateur, non, lui, sud-nord, en file. On file en altitude, mais on peut filer en rasement. Et ce très beau papillon qu'on appelle la belle dame, moi je l'ai découvert il y a un sacré bout de temps déjà. Pas ici en Maurienne, bien qu'on la voie assez facilement, mais je l'ai découvert à 5h du matin, alors que pour un papillon de jour, voler de nuit, c'est quand même curieux. Et c'est comme ça que j'ai découvert la migration des papillons. Je suis persuadé qu'elle traverse Saint-Martin-la-Porte. Pourquoi c'est tout ça? Saint-Martin-la-Porte, Saint-Michel-de-Maurienne aussi. Pourquoi? Simplement parce que si on regarde en face, on a la vallée de Valois, Valmeignier, Valois, et on atterrit au sud, bah, au bout de la Durance, il passe le Tarret, il passe par chez nous. Ils vont passer ici, ils vont descendre toute cette vallée-là, remonter tout Saint-Martin-la-Porte et filer en Tarentaise. Juste pour donner une petite idée, la belle dame. Alors pourquoi on l'appelle la belle dame? Je fais une petite parenthèse là aussi. Les noms communs sont arrivés qu'au 19e siècle. Et c'est les Anglais qui ont commencé à nommer les papillons. Et donc ils ont appelé cette espèce-là The Painted Lady. 19e siècle, une belle femme était pour les Anglais une femme qui était maquillée. Nous, la traiter de femme maquillée, c'était pas très joli, la dame maquillée, non. Alors la belle dame, ça c'est le côté enjoliveur du français. On l'a surnommée la belle dame. Mais regardez bien la beauté qu'elle a sur le dessous des ailes. C'est extrêmement varié, c'est plein de couleurs. Et je trouve que le nom lui va très bien à ce niveau-là. C'est un très grand migrateur. C'est un papillon qui va émerger sous forme adulte en Afrique du Nord au mois de février et qui va commencer à coloniser ces territoires. Et puis, s'il y a trop de papillons, bah, il va falloir qu'il traverse la Méditerranée. Un petit coup de vent et puis on s'envole. Et puis, on arrive où on longe les côtes par l'Italie ou par l'Espagne. Puis on arrive en France. On arrive en France au mois d'avril. Au moment où les populations émergent en Provence. Donc là, les territoires vont être colonisés et ils vont partir plus loin. Ils arrivent pas chez nous fin juin. Et ils vont continuer. Et les belles années, et on est de plus en plus dans de belles années pour ces papillons-là, ils sont capables d'aller jusqu'au cercle polaire. Et il y a même plusieurs informations qui montrent qu'on peut avoir des retour de migration. Et ce qui est très surprenant, c'est que les retours de migration dont on a entendu parler, ce sont des pêcheurs bretons qui ont vu des groupes de papillons, de belles dames, qui essayent de redescendre le long des côtes pour redescendre vers le sud. Voilà. On a encore énormément de choses à découvrir chez les papillons migrateurs. Et là, je voudrais saluer une association belge qui travaillent spécifiquement là-dessus au moins depuis 30 ans, qui font un travail absolument fabuleux. Et je terminerai par le symbole de la montagne, l'Apollon. L'Apollon dont on a en fait trois espèces. Mais le grand Apollon, qui est à peine plus grand que le petit, mais ça c'est une autre histoire, c'est le symbole de la montagne, mais c'est aussi, je dirais, le symbole du risque. C'est une espèce protégée, donc les humains ont dit, on n'y touche plus, sauf que en 1994-95, de mémoire, à une année près, il a failli complètement disparaître des Cévennes. Et les parcs nationaux ayant une obligation de savoir ce qui se passe pour les espèces protégées, On fait travailler l'université de Marseille. Il aura fallu 3 ans pour travailler sur l'ensemble des populations d'Apollon. Et je le fais très synthétique, grosso modo, au-delà de 25 degrés, le papillon adulte meurt. Et c'est ce qui s'est passé au Mont Aigoual plusieurs années de suite. Donc la population d'Apollon dans les Cévennes s'est considérablement réduite. Elle existe encore, hein, mais dans des endroits où il a trouvé de quoi survivre. Par contre, nous, dans les Alpes, on n'a jamais rien vu. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours une population importante plus haut en altitude qui permet de recoloniser les territoires qui sont en dessous. Donc nous, strictement, dans les Alpes, on n'a rien vu de tout cela si on n'avait pas eu l'Université de Marseille qui était venue nous l'expliquer. Donc on a une grande richesse d'espèces. Mais, et là, il faudra peut-être des études complémentaires que nous, en tant qu'association, on n'aurait peut-être pas le moyen de faire. Il vaut mieux confier ça à des scientifiques. Il y a à savoir où en sont chacune des espèces. Nous, on peut dire, voilà ce qu'on sait actuellement. Et on passe le relais ensuite aux organismes scientifiques. Voilà ce que je pouvais vous dire ce soir sur ce sujet-là. Tout ce que je vous dis, ça va se retrouver sur un site internet que nous avons créé il y a 7 mois, www.ladauphinel.fr, où on va essayer de mettre le maximum d'informations sur ce que l'on connaît sur la culture et sur la nature et sur la culture également. Et on retrouvera ces exposés sur le site internet d'ici quelques temps, le temps de le faire. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis là à votre disposition si vous avez des informations, des compléments, si je ne vous ai pas complètement endormi, ça n'a pas l'air d'être là. Un principe important à Dauphinel, c'est que toute question est importante. Donc si vous en avez, allez-y. Hein, les gens me disent souvent, j'ai une question bête. Non, il n'y a pas de question bête. Si vous avez une question, si vous avez besoin d'aller juste un peu plus loin dans la connaissance, et si je peux vous apporter une réponse, je ne les ai pas toutes. Je suis à la disposition.
Vous voulez savoir si les papillons migrateurs, où est-ce qu'ils se reproduisent? Est-ce que c'est en Afrique qu'ils viennent chez nous et qu'ils repartent? Ou est-ce qu'ils se reproduisent chez nous?
Alors, je dirais que moi, avec ma connaissance, qui n'est pas loin d'être totale hein, sur ce sujet, pour moi, j'appelle pas ça une migration comme on a la migration des oiseaux qui viennent se reproduire chez nous et qui repartent en Afrique pour la plupart d'entre eux. J'appelle ça plutôt une migration de colonisation. C'est-à-dire qu'il y a trop de populations à un moment donné et ils vont aller se déplacer pour trouver de nouveaux territoires. Et en même temps, donc, ils se reproduisent en Afrique du Nord, mais ils se reproduisent aussi dans la zone provençale. Ils se reproduisent aussi ici, en altitude. Je me souviens d'une belle dame qui était au niveau de... Ça y est, j'ai perdu le nom. La chapelle qui est tout en haut. La chapelle Notre-Dame-des-Neiges.
Notre-Dame-des-Anges,
exact. Merci. Et on l'a vu, mais totalement territorial, c'était ce mois de juin-là, totalement territorial, donc elle se reproduit ici. Hein. Simplement, non, celles qui se reproduisent et qui ont leur territoire, elles restent. C'est le surplus de population qui va voir un peu plus loin, et qui va essayer de coloniser un peu plus loin.
Mais puisque vous parliez des pêcheurs, est-ce que c'était aussi des papillons qui montaient ou qui redescendaient?
Non, c'était des papillons qui redescendaient. C'était une migration de retour. Oui. Voilà. Mais qui allaient se perdre apparemment en pleine mer. Hein.
C'est pas obligatoirement la génération. C'est pas obligatoirement la génération.
Non, c'est la génération d'après celle-là.
D'accord.
Hein. En général, quand ils montent, ils restent là-haut parce qu'ils ont trouvé un territoire pour se reproduire. Là aussi, dans le nord de l'Europe, il y a une grande partie de la reproduction qui ne se termine pas. parce que le froid arrive plus tôt. La même chose chez nous ici. Hein. Il faut savoir qu'on a à peu près on va dire le même climat entre guillemets en altitude ici et dans le nord de l'Europe. C'est pour ça qu'on a des espèces qu'on ne trouve que dans les Alpes et dans le nord de l'Europe, en Laponie par exemple. J'en ai trouvé deux qui ne dormaient pas. Quand je vois le sourire, je vois que j'ai réussi à maintenir tout le monde. C'est vrai que c'est pas facile ce soir. Ben, ce sera avec plaisir, effectivement, dans le sens où je dirais que dans l'association, bon, on est une petite association et on ne cherche pas obligatoirement à devenir une grosse association. Small is beautiful, disent les Anglais, ça nous convient bien. Par contre, on est prêt à faire découvrir ce que l'on connaît, ce que l'on aime. On a un certain nombre d'adhérents, d'ailleurs, de l'association qui sont présents ici. Nous permettent aussi de faire des inventaires. Je pense à la journée du 1er juillet, on a été à Valménier, par exemple. Voilà, et puis on répond aussi. Alors, je ne suis pas très vendeur, mais vous pouvez nous questionner, nous envoyer des photos, par exemple. On prendra peut-être un peu de temps pour répondre si on n'a pas l'information ou si on est débordé quand on a des préparations de projection comme ça. Mais on répond toujours aux questions qu'on nous pose. Donc, on peut nous envoyer des informations. Si on n'a pas la réponse, on la transmet aussi à d'autres personnes qu'on connaît qui peuvent nous aider. Pour nous, le principal, c'est d'arriver à permettre d'augmenter à la fois la connaissance et puis proposer une ouverture, une vision autre sur la nature. D'ailleurs, à propos de vision autre, si vous le souhaitez, il y a l'anneau binoculaire pour aller voir les écailles derrière, là-bas. Vous pouvez y aller, revenir à votre place. Enfin, vous cliquez.
Je vais préciser, au niveau des informations, il est utile de dire le lieu où on a trouvé la chose et la date.
Oui, effectivement, la date et le lieu. Alors, vous embêtez pas, vous faites une photo de papillon. Alors, la difficulté des papillons, c'est qu'en général, il faut arriver à les prendre sur le dessus des ailes et en dessous. Là, c'est un peu plus fort.
Je disais que tu étais exigeant là-dessus.
Oui, oui. Parce que regardez, je reprends mon exemple des pierridés. Les pierridés, sur le dessus, ils sont blancs. Donc les différences qui vont nous permettre de déterminer les espèces, souvent, c'est sur le dessous des ailes. Les ornementations qui vont être différentes d'une espèce à l'autre. Donc à la limite, les papillons blancs ou les en dessous, ce qui est plus dur quand même que par-dessus. Mais là aussi, c'est toute une approche. Toutes les photos qu'on vous a présentées, là, c'est souvent une approche par rapport aux espèces. Je le fais souvent avec des enfants où tout d'un coup, je me mets à parler très fort. Je ne peux pas le faire avec vous, je n'ai pas envie de vous stresser ce soir. Mais je fais un geste brusque en parlant très fort d'un seul coup. Là, qu'est-ce qui se passe? On sursaute. La nature, c'est la même chose. D'ailleurs, je pense que les chasseurs le savent très bien. Hein, pour s'approcher du gibier, ils y vont doucement. Quand on veut s'approcher, les photographes aussi, quand on veut s'approcher d'un animal, on va y aller tout doucement. Mais l'objectif nous aide beaucoup. Voilà. C'est une habitude aussi, c'est un entraînement. Et puis, c'est un nombre incalculable de photos qu'on a mis à la poubelle parce qu'elles sont floues, parce qu'elles sont loupées, parce qu'on n'a pas le renseignement qu'on veut, etc. Donc, effectivement, une photo, une date et un lieu. Alors, un lieu, ça peut être, si vous avez une carte, un rond sur une carte, nous, on se débrouille après. Et puis, ça vient augmenter notre base de données qui nous permet après de dire, regardez la richesse du patrimoine naturel qu'on a, entre autres en Maurienne, parce que si vous regardez bien les vallées alpines, elles auront toutes leurs particularités. Vous avez vu, en Val de Suse, c'est un peu différent. Plus on va vers le sud, plus il y a d'espèces, en théorie. Plus on va vers le nord, moins il y en a. Oui, alors, effectivement, c'est important de le préciser. Toutes les données que nous faisons, que nous récoltons, ce sont des données qui vont servir. C'est-à-dire, elles nous servent, nous, pour nos études, mais on va dire qu'on est partageux. C'est-à-dire qu'on va les donner assez régulièrement au Conservatoire des espaces naturels de la Savoie, qui gère ce qu'on appelle l'OPS. L'OPS, c'est l'Observatoire de la biodiversité de la Savoie. Et donc, ils réunissent toutes ces données et, comme organisme parapublic, ils les mettent à disposition. C'est ainsi que n'importe quelle personne peut demander quelle est la liste, quelle est la liste des papillons, quelle est la liste des espèces qui vivent sur Saint-Martin-la-Porte. Et là, vous allez avoir toute une liste avec la flore, avec les mammifères, avec les serpents, les lézards, etc., etc. Vous aurez les papillons, vous aurez les coléoptères, vous aurez toute la liste de ce qui a été regroupé. En même temps, ils sont liés au Muséum de Paris, ce qui fait que ça va aussi au niveau national. Mais comme tous les départements ne fonctionnent pas de la même manière, on a la création d'une association régionale qui va travailler, on va dire, sur les petites bêtes, pour faire le lien entre le département, la région et le niveau national. Donc on est dans une période très intéressante de structuration des organismes, parce qu'on a des organismes très différents. Hein. Le Seine-Savoie est une association, mais une association, je dirais, je ne trouve plus le terme, mais quasiment administrative. Hein. Il travaille sur les espaces naturels de la Savoie. Nous, on est une petite association naturaliste. On a un parc national qui est un établissement public de l'État. On a des parcs régionaux qui sont d'autres structures. Donc il y a des structures très très diverses. Et toutes ces informations, ce qui peut être intéressant, c'est d'arriver à les rassembler et à ce qu'elles puissent servir dans la gestion des territoires. Et ça, c'est quand même quelque chose de relativement récent. Et je pense que Pascal Dupont, dont je vous parlais tout à l'heure, y est pour beaucoup parce que ça fait des dizaines d'années qu'il travaille là-dessus. Il fait un travail remarquable. Mais si vous avez des informations, nous sommes prêts à les recevoir. Vous voyez qu'elles peuvent servir dans différents cas. Alors, soit je vous ai tout dit, mais je pense que j'ai dû oublier pas mal de choses. Soit simplement on va s'arrêter là parce qu'il est un peu tard.
Merci bien.
Et moi, je tiens à vous remercier d'être venu. Merci.